Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Voici venu le mois de janvier, ces traditionnels vœux, une délicate attention à ne pas rater, se disent certains, des vœux pieux qui ne servent à rien, se disent d'autres. Et si l'on se souhaitait plutôt en cette nouvelle année d'être des hommes et des femmes, mais des vrais? Si nous nous incitions à sortir de nos canapés pour mettre nos chaussures à crampons, comme le dit le pape François aux jeunes, pour vivre, et pourquoi pas, en héros? Cyrano de Bergerac dans le film Edmond, Christopher McCandless dans Into the Wild, Saint-Vincent de Paul dans Monsieur Vincent, ce sont trois figures de héros que nous avons choisi pour cette émission de cinéma de rentrée. Trois héros qui, espérons-le, feront plus que nous inspirer. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ravi de retrouver nos deux compères cinéma. Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel.
Meilleurs vœux. Paul Dima, intervenant cinéma pour les centres jésuites dans le sud-ouest, dit les centres Cotopaïs. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors, en cette rentrée, donc trois films. Le premier à l'affiche, je rappelle le concept pour ceux qui, par hasard, nous prendraient pour la première fois. Un film à l'affiche, un chef-d'œuvre dit humaniste et un chef-d'œuvre spirituel chaque mois dans cette émission cinéma, qui devient l'un des grands rendez-vous de cette émission, en partenariat donc avec votre ciné-club, Ciné-Parole, qui ce mois-ci a lieu donc mardi 15 janvier prochain, avec deux séances. À 14h30 et 20h30, et donc pour discuter du film Edmond qui est à l'affiche, voilà, à la fin de la séance, et prolongé, c'est au cinéma L'ABC à Toulouse. On va commencer par écouter la bande-annonce de ce film.
Monsieur Coquelin !
Quoi encore ?
Alors votre pièce, comédie, tragédie ?
Tragédie. Comédie.
Le titre.
Hercule. Savinien. Cyrano. Un poète avec un grand nez.
Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. La répétition commence demain matin.
La pièce n'est pas écrite.
Molière a monté Tartuffe en 8 jours.
Ça manque un peu de cul.
Marchera jamais.
Votre verre va musa.
Cet acteur, ce n'est pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse?
De qui parlez-vous?
Eh bien, mes amis, ça sent le succès.
Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je...
Louche?
Je touche.
Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre.
Comme à chaque fois.
Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie.
Comme à chaque fois.
Dites-moi que tout va bien se passer.
Tout va bien se passer.
Embrassez-moi.
Lequel?
Et après, que se passe-t-il?
Je ne sais pas.
Et Roxane, que fait-elle?
Je ne sais pas.
Elle respire. Les gorias, ça.
Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme.
L'amour.
L'amour.
C'est...
C'est ridicule.
10 minutes avant le lever.
Ça, je n'ai jamais vu.
Voilà, Edmond, donc, film à l'affiche, Edmond, donc, pour Edmond Rostand, l'auteur, donc, de cette pièce de théâtre célébrissime, probablement une des pièces de théâtre les plus jouées en France, hein, peut-être avec la cantatrice Chauve.
Même au monde.
Au monde, ah oui. Voilà, pièce, donc, d'Edmond Rostand, qui est, donc, son chef-d'œuvre. Et film, donc originalité de ce film, qui parle non pas de Simon, de Cyrano de Bergerac, mais de l'écrivain que l'on connaît, c'est vrai, moi, j'avoue que j'avais jamais vu de film sur lui, je sais pas, vous allez nous dire s'il y en a beaucoup qui ont été faits. C'est un film d'Alexis Michalik, qui est connu pour être d'abord un homme de théâtre, et qui donc là se lance dans son premier long métrage, si j'ai bien compris. L'intrigue, je vais essayer de la résumer, puisque c'est comme ça qu'on commence à chaque fois. Et puis Louis-Marie, je vais vous laisser compléter. Nous sommes à Paris en 1897. Edmond Rostand est donc un jeune auteur. Il n'a même pas 29 ans. Il a connu, semble-t-il, quand même un ou deux débuts de succès. Marié, deux enfants. Et puis il va trouver un certain Constant Coquelin. Vous allez nous expliquer qui il est. Qui lui commande une pièce, ce qui est, à l'époque à Paris, un grand honneur. Et s'ensuit le reste de l'histoire.
Il faut dire qu'à l'époque, le loisir le plus populaire, c'était le théâtre. Le cinéma commençait à balbutier. Hein. On avait, les frères Lumière avaient déjà filmé leur fameux train dans la gare de la Ciotat ou la sortie de leur usine. Mais le théâtre faisait courir les foules, à la fois un public populaire, mais aussi un public de la classe plus aisée qui aimait les grands textes. Le problème avec Rostand, c'est qu'il ne savait écrire qu'en vers. Et on le voit bien dans le film, c'est qu'à l'époque, on aimait les comédies écrites en prose, en particulier celle de Feydeau. Le fil à la patte, c'est vrai qu'on riait beaucoup avec Feydeau. Et donc, Michalik plante bien le décor, montre bien ce qu'était la place du théâtre à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, et les problèmes rencontrés par Rostand qui n'arrivait pas à trouver l'inspiration pour écrire une pièce. Et Sarah Bernhardt, la grande Sarah Bernhardt, vient le trouver pour lui dire qu'il faut qu'il écrive quelque chose pour Coquelin qui est...
Qui est ce Coquelin à l'époque alors?
Coquelin, c'est l'équivalent de Sarah Bernhardt, mais en moins prestigieux, moins populaire qu'elle, mais en fait, je veux dire, il a moins de renom, on le connaît moins son nom que celui de Sarah Bernhardt. Néanmoins, à l'époque, c'était un très grand acteur, mais là, il était en perte de vitesse. Il fallait qu'il trouve quelque chose qui le remette en selle. Et comme elle aimait bien Rostand, Sarah Bernhardt, elle va le trouver. Elle lui dit allez voir Coquelin de ma part et dites-lui que vous avez quelque chose pour lui. Et voilà comment tout commence.
Edmond Rostand, qui avait déjà écrit Les Romanesques. Voilà, je n'ai pas lu. Premier succès en 1894, qui avait été quand même présenté à la Comédie Française, donc c'était pas non plus un inconnu complet. Et puis la Samaritaine, je crois, aussi en 1897. Quelques mots avant qu'on aille plus loin sur ce Alexis Michalik. Donc homme de théâtre, j'ai lu en préparant l'émission que 1 million de personnes auraient déjà vu ses pièces en France.
Oui, c'est vrai, il a eu beaucoup de succès au théâtre. Chacune de ses pièces ont très bien marché, et en particulier Edmond, puisque au départ, Edmond est une pièce de théâtre. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, Edmond, il voulait en faire un film. Et il a trouvé aucun producteur qui voulait monter cette histoire concernant Edmond Rostand qui écrit Cyrano de Bergerac. Alors comme il est homme de théâtre, il a transformé son scénario en pièce de théâtre et la pièce a rencontré un succès populaire énorme. La pièce est toujours jouée d'ailleurs à Paris.
Théâtre du Palais Royal pour ceux qui voudraient y aller.
Il a eu 5 Molières rien que pour cette pièce. Donc le film, la pièce a rencontré un très grand succès. Alors maintenant que la pièce a du succès, on s'est dit, adaptons-la au cinéma.
Paul Dimain, est-ce que ce film vous a plu? Et si oui, pourquoi?
Oui, beaucoup. Beaucoup parce que d'une part, c'est un film populaire, léger et intelligent en même temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de plaisir à le voir. Et ce qui est intéressant, c'est une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'histoire d'Edmond Rostand. Il ne faut pas attendre de ça un récit biographique, un biopic d'Edmond Rostand, mais Michalik invente un rapport serré entre l'histoire de la pièce et ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux, enfin, il a une muse qui l'inspire beaucoup, et c'est la Roxane de la pièce. Enfin, il y a un jeu très, très drôle, en même temps, et plein de surprises, entre la vie de l'auteur, la vie de la troupe, et l'histoire de la pièce qui est en train de se créer au fur et à mesure dans une pagaille un peu indéfinissable, mais et qui aboutit à un triomphe aussi contre toute espérance.
C'est là où on apprend presque dans le film, soi-disant, l'inspiration qu'il a eue pour créer Cyrano de Bergerac en voyant la manière un peu, on va dire quoi, maladroite qu'avait son ami de courir après la belle qu'il...
Oui, oui. Alors,
est-ce que c'est historique? On ne sait pas.
Tout n'est pas historique, hein, mais après tout, peu importe. C'est une fiction dans la fiction.
C'est justement ça qui est amusant, c'est que Alexis Michalik a pris des libertés et puis. C'est ça qui fait tout le piquant de l'histoire. Et très astucieusement, puisque Edmond Rostand veut aider un de ses copains à séduire une jeune costumière, il lui écrit les lettres. Donc c'est effectivement ce qui va se passer pour Christian dans Cyrano de Bergerac. Et puis il a l'habitude d'aller boire Qu'est-ce qu'il boit ? Il boit des tisanes. Hein. Il boit pas d'alcool.
Il boit pas d'absinthe. Monstres.
Non, pas du tout. Il boit des tisanes.
Il buvait de l'absinthe encore. Et,
oui, mais lui, non. Pas d'alcool. Et il va dans la brasserie d'Honoré. Et Honoré... est le propriétaire de la brasserie est noir et donc il a quelques évidemment problèmes avec certains de ses clients qui sont racistes et il chasse un de ses clients une fois parce que ce client l'a traité de nègre et il le chasse en disant mais c'est un peu court
jeune homme nègre
et
dire
puis
bien il, des choses en il, somme
voilà et il parle en vers parce qu'il est passionné et donc c'est le clin d'œil à la fameuse tirade du nez quoi.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du casting de ce film Louis-Marie Solaire ou Paul Dima parce que
il est parfait. Le casting est parfait. Pourquoi ? Parce que
quelques acteurs connus quand même.
Il y a quelques acteurs connus. Et puis des visages dont on oublie les noms mais qu'on aime retrouver. Voilà. Et alors,
quelques noms.
C'est Olivier Gourmet, l'acteur belge qui interprète le rôle.
Très présent dans les films des frères Dardenne.
Qui joue le rôle de Constant Coquelin, donc oui. Cyrano de Bergerac. Il y a Mathilde Seignet qui joue le rôle de Maria Legault, aussi une grande actrice de l'époque, très capricieuse et un peu irascible, qui n'est pas sans rappeler, dans sa famille, il y avait Françoise Seignet qui était pas facile à manipuler non plus, donc un clin d'œil aussi. Et puis, il y a Clémentine Célarier qui joue le rôle de la grande Sarah Bernard. Et puis, je vous dis, après, il y a Dominique Pinon qui joue le rôle du régisseur. Il y a Simon Abkarian qui joue le rôle d'un des producteurs corse. Jean-Michel Martial, qu'on aime à retrouver, qui joue le rôle du brasseur, enfin, du tenancier noir. Il y en a plein comme ça. Il y a Olivier Lejeune, il y a Antoine Duléry. On les reconnaît tous.
Et ce qui est intéressant dans cette distribution, c'est que c'est cohérent avec l'histoire elle-même. C'est pour faire une pièce brillante qui va avoir du succès, qui va et de fait.
Et qui a eu un succès dès sa première. C'est aussi ce que j'ai appris. Peut-être une dernière question avant qu'on fasse une première pause. Étonnante vie en tout cas pour l'homme de théâtre qu'il était, d'écrire comme ça son chef-d'œuvre à 29 ans, de rencontrer un immense succès. Et puis derrière, quand on lit sa biographie, ça pour le coup je la connaissais un peu plus, derrière il a écrit L'Aiglon et qui a connu un succès plus relatif, puis Chanteclair, il a mis plusieurs années à l'écrire, bref, être à l'apogée à 30 ans, c'est quand même une drôle de vie, non ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Certes, c'est comme ça, mais je crois que c'est le lot des auteurs. Il a écrit son chef-d'œuvre, comme ça, et la façon dont le raconte Alexis Michalik, c'est un peu sur un malentendu, quoi. En courant un peu partout, il y est arrivé. Alors, ce qui est aussi amusant dans le film, c'est que les rôles féminins, il y a le personnage de la costumière, c'est Jeanne d'Arcy dans l'histoire, et Jeanne d'Arcy, c'est la future Madame Méliès. Hein, puisqu'à un moment dans le film, après, quand elle quitte le théâtre, elle dit « je vais devenir costumière pour Méliès ». Et puis la femme d'Edmond Rostand, c'est Rosemonde Gérard. Dans le film, elle n'est que la mère de famille, mais Rosemonde Gérard, c'est la grande poétesse, la fameuse poétesse de « Car vois-tu, je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain », c'est elle qui a écrit ça.
Il en a des lettres quand même, hein. Il devrait se mettre au théâtre. Hein.
Tout à fait.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve peut-être pour cette première figure, après cette première figure peut-être de héros, donc incarné par Edmond Rostand, qui dit probablement aussi quelque chose de son personnage. Je le disais en préparant l'émission, une espèce de mélange figure éternelle, presque de l'âme française, mélange de mousquetaire et d'un Jean d'Ormesson, et peut-être figure aussi de la jeunesse, le prophétisme, la fougue, l'enthousiasme et le désir d'absolu de la jeunesse. Comme le dit aussi parfois le pape François à propos des jeunes, il a cette phrase, il y a quelque chose de prophétique dans la jeunesse. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour parler de Into the Wild, film de Sean Penn, autre figure héroïque peut-être plus contemporaine celle-là. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc le grand écran, notre rendez-vous cinéma qui reprend ses bonnes habitudes en cette rentrée. Ravi de retrouver nos deux compères, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h, je vous le rappelle, émission aussi à ne pas rater, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les centres jésuites dans le sud-ouest Cotopaïs, tous deux animateurs. Et je ne l'ai pas dit avant la pause, donc je vais me reprendre de ce ciné-parole en lien avec le cinéma à l'ABC à Toulouse. Prochaine donc séance du ciné-parole, mardi 15 janvier, la semaine prochaine donc, deux séances, 14h30 et 20h30. À l'issue du film, on parle du film pour essayer de voir ce qu'il a laissé comme trace en nous. Deuxième film de ce mois, chef-d'œuvre humaniste, Into the Wild, film de Sean Payne. Comme d'habitude, on commence par écouter la bande-annonce et puis après on en parle.
Je voudrais t'offrir une voiture, une vraie.
J'en ai pas besoin. La Datsun marche très bien. Je veux rien du tout.
Faut toujours que tu fasses des histoires.
Certains, en ce monde, partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même.
Alors t'es un cuir.
Un cuir ?
Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule.
Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un boulot pour gagner ta vie ?
J'ai qu'un seul projet. Je pars en Alaska.
Alaska, Alaska ? Ou une ville en Alaska ?
Je veux me perdre au fin fond de la nature. Ouais. La vie sauvage.
Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi loin de tout ?
On vit, tout simplement. J'ai lu quelque part qu'il est important non pas d'être fort, mais de se sentir fort. De prendre une fois au moins sa propre mesure.
Où sont tes parents ?
Ils vivent quelque part.
Est-ce qu'ils savent où tu es au moins ?
C'était pas un rêve, je t'assure, Walter. C'était vraiment lui. Je rêvais pas, c'était bien la voix de Christopher.
Ça fait combien de temps que tu es là ?
Une semaine ou deux.
Et avant ça, t'étais où ?
J'étais dans le Dakota du Sud. J'ai bossé pour un type, Wayne.
Alors ce boulot, qu'est-ce t'en dis ?
J'en dis que j'adore.
J'ai descendu le Colorado jusqu'au Grand Canyon, par les rapides.
Et le N, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le Nord.
Ta grande aventure en Alaska.
Un truc dans la vie, le laisse pas t'échapper.
C'est ce qui s'appelle une bande-annonce qui plante le décor. Je voyais Paul Dima sourire. L'histoire, donc, on a quand même compris un petit peu, mais je vais rappeler donc un certain Christopher McCandless, donc jeune diplômé de l'université, américain, jeune homme brillant, quitte tout, voilà, plaque tout, sans donner de nouvelles de sa famille. Il donne tous ses biens ou ses quelques économies, je crois, à une ONG qui s'appelle Oxfam, ONG bien connue. Et cet homme, ce jeune homme part donc sur les routes des États-Unis, dans les champs de blé du Dakota, dans les flots tumultueux du Colorado, dans les communautés hippies de Californie et jusqu'en Alaska, qui est donc son Éden, en tout cas son horizon. C'est un jeune garçon qui est à la recherche de lui-même et qui rejette une certaine société. Ça, c'est pour planter le décor. C'est un film qui a connu, je ne sais pas s'il a connu un très grand succès, vous allez nous dire, Louis-Marie Soler ou Paul Dima, mais pour ma génération, c'est un film qui a marqué. Moi, je trouve que c'est un film un peu d'une certaine génération. Louis-Marie, sur l'histoire, peut-être quelques éléments supplémentaires avant qu'on passe au reste.
Effectivement, non, le film a rencontré du succès, et un certain succès, même plus qu'honorable. Sean Penn est l'acteur qu'on connaît, aussi le réalisateur, parce qu'il a fait pas mal de films. Il avait d'autres films à son actif avant de tourner Into the Wild. Et c'est un acteur et un réalisateur dont on attend toujours les réalisations avec plutôt de l'impatience. On a envie de voir ce qu'il fait. Et alors là, il a choisi d'adapter un roman, Le Voyage au bout de la solitude, de John Krakauer. Et il décide d'utiliser un genre assez typiquement américain, celui du road movie. Alors, c'est pas vraiment un road movie, ce film-là. Hein. C'est pas tout à fait le genre typique, mais en fait, c'est le genre qui est le plus utilisé quand on est à des moments de grands bouleversements et de grandes incertitudes. Et c'est ce qui arrive au personnage de Christopher McCandless. Et parce que l'errance symbolise la recherche de réponses. C'est ça. Oui. Il se cherche, en fait. Et il veut aller plus loin que ce qui est devant lui.
C'est en même temps un voyage initiatique. C'est-à-dire que c'est pas un road movie au sens que la voiture est abandonnée assez vite, mais peu importe, dans la trajectoire, c'est pas simplement pour se promener, c'est pour faire une traversée à la recherche. Il y a une quête spirituelle.
Et c'était le cas d'une certaine jeunesse dans les années 60, mais c'est aussi le cas d'une certaine jeunesse aujourd'hui encore, qui parcourt le monde pendant un an, deux ans, qui se cherche.
Tout à fait.
Alors, sur peut-être avant qu'on creuse un peu le film et l'histoire, Sean Penn, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus. Louis-Marie, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres films qu'il faut avoir en tête?
Eh bien, dans sa filmographie, il a notamment réalisé Indian Runner, un de ses premiers films, si ce n'est le premier, hein, dans lequel il y avait aussi quelque chose d'assez voisin par rapport à l'histoire qu'on découvre dans Into the Wild. Il avait aussi réalisé Crossing Guard, un film particulièrement sombre, et The Pledge aussi. Donc il y a des films forts, et chaque fois qui méritent largement le détour. Après, en tant qu'acteur, on l'a vu à peu près dans tous les genres. On se souviendra de sa performance remarquable dans un Clint Eastwood où il campait un père qui avait perdu un de ses enfants tué, et une histoire où lui, il était plutôt du mauvais côté de la barrière, et ses anciens copains, puisqu'il avait des amis d'enfance de l'époque où il était gamin, étaient devenus un flic et l'autre avait végété. On comprend pourquoi.
Alors, on va écouter un deuxième extrait. Il est sur la route, il rencontre donc un couple hippie, ou une communauté hippie, à l'intérieur de cela un couple qui est sur la route aussi, mais d'une autre manière, et il en dit un peu plus sur sa recherche.
Alors toi, t'es un routard.
Je suis un routard.
Oui, t'es un routard. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui marchent, qui font la route à pied. Nous, on est des roulards.
Parce que nous, on a un véhicule. Je vais me pousser comme ça.
T'en prie, arrête. Oui, Alex pourrait avoir un véhicule aussi, mais il a décidé de brûler ses billets de banque. Et pourquoi est-ce que t'as fait ça?
Parce que j'en ai pas besoin. Ça rend méfiant, l'argent.
C'est normal, Alex, d'être un peu méfiant. Tu vois, ton livre, il est intéressant, mais on ne peut pas vivre que de feuilles et de petits fruits.
Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de plus que ça.
Où sont ta mère et ton père?
Ils vivent leur vie quelque part.
Tu as l'air d'être un fils aimé, ne sois pas injuste.
Injuste?
Tu sais ce que je veux dire.
Je répondrai en citant Thoreau. Plutôt que l'amour, la célébrité, la foi, l'argent. Plutôt que la justice, donnez-moi la vérité.
Un an et demi avait passé dans ce que papa appelait l'absence de signe de vie.
Mmh. Voilà, donc c'est extrait de cette conversation. Je sais pas, comment ça vous fait réagir. C'est pareil, cette jeunesse qui part à l'autre bout du monde, et ce pendant un certain temps. Souvent, quand on est plus âgé, on peut regarder ça avec un sourire en coin. Mais il cherche, c'est déjà beau. Et peut-être cherche-t-il justement la vérité. Et c'est pas si simple de chercher la vérité. Paul Dima.
Oui, et ce qui est intéressant dans le film, et ça se produit à chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est-à-dire que les personnes qu'il rencontre, par le regard qu'elle porte sur lui, l'amène à dire sa quête. C'est pas simplement une recherche comme ça, mais à relire son histoire et à donner les raisons de sa démarche et d'expliquer ce à quoi il tient. Et là, on voit bien que, et dans l'Amérique de ces années-là, il y a une rupture avec un système où la vie roule d'elle-même, et puis on fait un métier, on gagne de l'argent, etc. On obtient même la célébrité. Et là, il coupe avec ça de façon assez radicale, comme une entrée dans une démarche un peu mystique. Hein, et il cherche la vérité. Il cherche la vérité, il s'en donne les moyens en se délestant de tout ce qui n'est pas utile pour cette recherche. C'est-à-dire qu'il fait un discernement dans ce qui est important pour lui, même si c'est en rupture avec les codes du monde.
Parfois, je trouve que quand on est spectateur, quand on est spectateur, on l'est, hein, mais on peut avoir un regard un peu ambivalent sur ce personnage. C'est-à-dire qu'on le trouve parfois un peu tête à claque, hein, irresponsable, tête brûlée. Et en même temps, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est très intelligent, qui mesure en fait quelque part aussi le chemin qu'il emprunte. Et presque, on a l'impression qu'il en mesure un tout petit peu quand même aussi le risque ou le coût, non ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, Marie ?
Effectivement, le personnage de ce jeune homme, Christopher McCandless, à certains moments, vous l'avez dit justement, Emmanuel, est une tête à claque parce qu'il est prêt à tout pour arriver ce vers quoi il veut tendre. Donc à ces moments-là, quand on l'entend dans l'extrait que vous venez de passer, il brûle ses billets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il brûle ses billets ? Parce que, bon, on peut arriver à trouver sans aller à l'extrême, mais c'est ce qu'il fait, c'est justement ce qui est crispant, c'est ce qu'on comprend là. T'es un routard, nous on est des roulards, tu marches, tu pourrais aller en voiture pour chercher. C'est ça, il y a cette ambiguïté, mais...
Mais ça fait partie de sa démarche, et en l'occurrence, il explique pourquoi.
Et finalement, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'il veut aller là. Alors, lui, sa quête, elle ne va pas quitter les États-Unis. Il y a suffisamment à découvrir aux États-Unis sans parcourir le monde. Mais il veut aller au nord.
Le bout du monde, c'est l'Alaska.
C'est l'Alaska. Pour lui, c'est ça. C'est l'Alaska et il va y arriver. Et effectivement, Sean Penn rend hommage dans son film à ses grands classiques des 70s. Des années 70, quoi, cette quête et cette façon de montrer ce peuple marginal et ses sentiments jusqu'au boutiste.
Voilà, jusqu'au boutiste, qui peut être compris, de manière positive ou négative.
Oui, c'est ça.
On va écouter un deuxième extrait. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis que c'est aussi un film qui doit parler peut-être particulièrement aux hommes. Un passage où il parle de la force.
Tout ce que la mer a à offrir, ce sont ces grosses bourrasques. Et de temps en temps, une sensation de puissance. Il est vrai que je connais pas grand-chose à la mer. Mais ici, en tout cas, c'est comme ça. Et je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. De se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seule la nature aveugle et sourde, sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête.
Voilà, est-ce que la fin est un peu cut, pardon. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi ? J'ai trouvé ça, en fait, parlant, ce passage, parce que dans notre société, on dit beaucoup de choses des hommes. On dit qu'ils sont parfois aujourd'hui écrasés par les femmes, ou alors ils ne se comportent pas correctement à l'égard des femmes. Bref, il y a dans notre société comme une forme de guerre des sexes, mais il y a aussi comme un malaise, peut-être, du côté des hommes. Et on parle parfois de l'absence de rite initiatique dans notre société. Et dans le fond, le rite initiatique, Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire à un moment où on fait l'expérience d'aller au bout de soi-même. Et il y a un passage, en fait. Et qu'on le veuille ou non, c'est ça aussi de devenir adulte, non, Paul Dima?
Alors, il le dit fort bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il trouve dans la nature quelque chose qui l'interroge. Et alors, on peut discuter la formule qu'il emploie à la fin. L'important, ce n'est pas...
Ce n'est pas d'être fort, mais de se sentir fort. Genre, on entend derrière d'avoir un jour éprouvé sa force, en fait.
C'est ça. Et on comprend que là, il s'implique complètement dans cette confrontation à la nature. Et sans trop tirer la couverture, je trouve intéressant, et on retrouve dans l'Laudato aussi du pape François, quelque chose de proche, bien qu'un peu différent, c'est-à-dire que la nature peut être aussi un lieu d'enseignement, et il parle d'écologie, ce film, un peu avant que le mot soit à la mode, mais ce jeune veut sortir de façon radicale de la société de consommation américaine qu'on lui a fournie jusque-là.
Une société artificielle pour lui ?
Oui, c'est ça, qu'il rejette. Hein, dont il se coupe d'ailleurs, sans égard pour ceux qui vont vivre cette rupture, sa famille, mais en même temps, pas pour leur faire payer, mais lui pour se confronter jusqu'au plus extrême à qu'est-ce qu'il va trouver. Et il ne triche pas avec ça, et ça c'est intéressant.
Eh ben, merci de la transition. On va écouter un troisième extrait, sans trop dévoiler la fin. Il finit donc par arriver en Alaska, dans une région, c'est à Fairbanks. Enfin, en tout cas, il arrive à Fairbanks en autostop. Et donc, il trouve quelque part en Alaska, sur la piste de Stampede, piste semble-t-il qui existe, un vieux camion, et il commence à vivre là-bas.
Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, avec la possibilité de me rendre utile pour les gens auxquels il est facile de venir en aide, et qui n'ont jamais été habitués à recevoir. Et le travail qui, espérons-le, peut avoir son utilité. Puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est ma conception du bonheur. Et enfin, plus que tout le reste, toi pour compagne, et des enfants peut-être.
Ça, c'est donc presque la chute. Il faut dire que c'est un passage d'un livre de Tolstoï, et probablement que Tolstoï a écrit ce livre. Alors, je ne sais pas de quel livre c'est, vous allez peut-être m'éclairer, mais Tolstoï qui a vécu aussi une conversion importante, hein, un homme aussi qui est recherché profondément à sa manière, en d'autres circonstances et une autre époque, et qui a trouvé la paix, et lui, il trouve la paix, mais en l'occurrence, un peu tard, on peut dire.
On parlait du passage à l'âge adulte, mais est-ce qu'il veut vraiment passer à l'âge adulte? C'est ça aussi la contradiction qui anime...
C'est pas la question qui se pose, mais en tout cas, c'est peut-être le chemin qu'il prend.
Voilà, exactement, mais en tout cas, ça démarre jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'il est arrivé, qu'il a trouvé ses réponses, on n'en dira pas plus. Mais on peut mettre aussi un parallèle entre le personnage du film et en fait la démarche de Sean Penn. Sa démarche elle-même. Parce que dans la forme, même à l'époque, le film a à peine 10 ans quand même. Enfin, à peine, c'est vrai, maintenant 10 ans, c'est rien du tout. 2008, il sort des clichés spécifiquement hollywoodiens. On est à la marge, ce qu'on appelle le cinéma américain indépendant, le cinéma US indépendant. C'est un film un peu austère, même si les images sont belles, elles le sont, mais un peu austère par rapport à la démarche qu'il raconte, et qui dure 2h30. C'est-à-dire qu'il y a ça. Il est en dehors des clichés spécifiques de ce qu'était le cinéma, de ce qu'est le cinéma maintenant américain.
Ah oui, il tranche complètement même. Hein.
Ouais.
Ouais. Il y a une rupture là aussi qui s'installe dans la forme. Oui.
Dans la forme et dans la forme, dans le choix de la façon de raconter son histoire de Sean Penn, il y a quelque chose aussi de son personnage lui-même qui refuse justement la forme et qui veut trouver ses réponses.
Oui. Paul Dima.
Oui, il y a un refus du compromis. Et en même temps, il s'inscrit aussi dans une sorte de contradiction interne, mais avec laquelle il ne triche pas. C'est-à-dire que c'est un peu un adolescent aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il a un rêve, qu'il prend au sérieux, et qui, avec lequel il ne triche pas. Et ça, c'est très fort. Et on comprend que ça ait pu rejoindre toute une génération de jeunes, mais une génération de jeunes d'aujourd'hui aussi, qui rêvent d'absolu. Et peut-être que notre monde souffre de manque de jeunes qui prennent leurs rêves à bras-le-corps.
Décidément, ce sont des bons vœux pour 2019. Alors je citerai juste, avant qu'on fasse une deuxième pause, j'ai trouvé quelque chose qui va rendre ce personnage encore plus sympathique, puisque donc c'est une tirée d'un livre et d'une histoire vraie. Ce livre a été écrit par la sœur donc de Christopher McCandless, ce jeune américain, Into the Wild, l'histoire de mon frère, paru aux éditions Artaud. C'est en 2000, enfin quelques années plus tard, je ne retrouve pas l'année, bref, où elle raconte en fait l'histoire de ce frère, et il vivait en fait dans une famille où le père était maltraitant et autoritaire, et donc on comprend à travers l'histoire de cet homme et donc de ce frère que raconte l'histoire de ce frère que raconte cette sœur, qu'il a fui donc des circonstances familiales terribles. Into the Wild, l'histoire de mon frère, paru aux éditions Artaud. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve pour parler de notre chef-d'œuvre spirituel du mois. Et quel chef-d'œuvre, Monsieur Vincent, film sur Saint Vincent de Paul.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life and the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm...
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Rendez-vous cinéma, pour rappel, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, avec Louis-Marie Seller, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les centres jésuites dans le sud-ouest, Cotopaïs. Dernier film de ce mois, donc Monsieur Vincent, alors toute autre époque, film sorti en 1947. J'allais dire film de dialogue, mais ça veut pas dire que l'autre ne l'est pas. Énorme succès quand il est sorti en France. Vous me corrigerez, Louis-Marie, plus de 7 millions d'entrées. On va dire que c'est quoi ? C'est un des grands classiques du cinéma français. Film de Maurice Cloche. Comme on n'a pas de bande-annonce, parce que... Bah tiens, vous allez nous raconter à quoi ressemblaient les bandes-annonces autrefois, et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas passé, Louis-Marie ?
Bah, c'était compliqué parce que...
Sujet-verbe complément, les bandes-annonces,
c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que les bandes-annonces, à l'époque, en fait, pratiquement racontaient le film, mais il y avait peu d'images du film, beaucoup à lire et beaucoup à entendre avec une voix off qui racontait, au cas où on n'aurait pas bien lu ce qu'il y avait à l'écran, qui racontait l'histoire aussi. Voilà. Et on insistait beaucoup sur les acteurs qui jouaient dans le film, et là, en l'occurrence, Pierre Fresnay qui réalise une performance extraordinaire. Oui. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les acteurs n'avaient qu'un nom, pas un prénom et un nom. Ils n'avaient qu'un nom. Ce qui n'était pas le cas, c'était un des premiers pour Pierre Fresnay, qu'on appelait comme ça, Pierre Fresnay, mais souvent il y avait Andrex, c'était comme ça, même pour les dames, hein, c'était comme ça. Et puis à propos de Maurice Cloche, qui n'est pas un réalisateur français.
Alors attendez, juste avant que vous parliez de Maurice Cloche, donc Monsieur Vincent, c'est donc l'histoire de Saint Vincent de Paul, quand même, hein, donc prêtre du XVIIe siècle, canonisé au XVIIIe, dit géant de la charité, prêtre français. Né donc à la fin du XVIe siècle en 1580 et mort en 1660, qui a vécu donc sous le règne de Louis XIII, puis de vous allez m'aider,
Anne
d'Autriche, pardon, et de Louis XIV. Et donc on découvre au fil de l'histoire l'histoire de cet homme, mais surtout sa sagesse et ce qu'il a laissé avec des dialogues. On va les écouter pour certains qui sont devenus presque des classiques. Dites-nous peut-être un peu plus cette courte présentation, quelques mots de Maurice Cloche, réalisateur donc.
Le réalisateur qui au départ a commencé en tant qu'acteur en 1933. Quand même, il a suivi l'enseignement de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a été aussi à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc il maîtrisait son sujet. Il est devenu acteur, mais surtout, après, il est devenu directeur artistique et il passe à la mise en scène. Il a tourné des courts-métrages. En fait, un chemin finalement classique, ce que font même maintenant les réalisateurs. On commence par tourner des petits films et puis après, on se lance dans des longs-métrages beaucoup plus ambitieux. Et il marque le cinéma français parce que, avec justement Monsieur Vincent, qui sera probablement son plus grand succès, vous l'avez dit,
plus de 7 millions d'entrées.
7 millions d'entrées, mais aussi un film qui a permis à Pierre Fresnay d'obtenir le prix d'interprétation au Festival de Venise.
Qui joue Monsieur Vincent, donc.
Oui, au Festival de Venise. Et le film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger.
1949.
Et excusez du peu, les dialogues sont de Jean Anouilh.
Alors, on va écouter un extrait. Le jeune Vincent est nommé, donc, si je ne me trompe pas, à Gannes, près d'Amiens. C'est en 1617. C'est donc un jeune prêtre. Il quitte une riche famille, la famille des Condi, où il était donc précepteur des enfants. Peut-être qu'il y a une erreur, en fait, sur la ville. Hein, mais peu importe. Bref, il est jeune curé. Il arrive dans un village. Il remet d'aplomb presque le village et il finit par aller au chevet d'un des riches notables de ce village qui au début le chassait presque à coups de pierre, et il y a cette conversation avec cet homme.
Vous êtes moins pauvre qu'eux, alors vous leur devez tout.
Si on vous écoutait, ce serait beau.
Oui, ce serait assez beau. Cette petite fille de la morte que vous avez chassée hier, savez-vous qui l'a recueillie? Qui partage avec elle son pain?
Non.
La femme la plus pauvre du pays, celle qui avait déjà 5 enfants à nourrir. Maintenant, les riches de Châtillon sont tranquilles chez eux, bien au chaud. Et il leur semble que le monde est en ordre comme leur maison. Et elle, dans sa masure, elle a pris ce poids supplémentaire. Elle veillera un peu plus tard sur son roulet. Voilà tout, elle se lèvera encore un peu plus tôt le matin. C'est elle qui est riche.
Évidemment, quand on vous écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde est comme il est.
Il est comme on le fait, monsieur.
C'est donc à Châtillon. Et donc la scène d'arrivée de Saint-Vincent de Paul, c'est qu'en fait, il arrive dans un village où il y a une femme que l'on dit être lépreuse, qui a été murée vivante. Il va récupérer cette petite fille et un peu plus tard, il confie cette petite fille à la plus pauvre du village. Paul Dima, qu'est-ce que ça... À quel commentaire ça vous invite?
C'est un film ancien, extrêmement moderne. Quel est le rapport entre les riches et les pauvres? Quel regard les riches portent sur les pauvres? Et quelle place est faite aux pauvres par Vincent de Paul? et son côté révolutionnaire au sens propre du mot, c'est qu'il arrive à parler aux riches sans les accuser, mais en leur disant « Et vous croyez que le monde est en ordre ?» Eh bien, ce n'est pas l'ordre du monde.
On entendrait presque le pape François.
C'est... Oui. Alors, le dialogue est très bien fait. Hein. Je ne sais pas comment s'exprimait Vincent de Paul, mais dans le récit qui en est fait, là, on voit bien quelque chose d'extrêmement important. C'est les pauvres qui vont permettre de grandir et pas ceux qui les dominent.
Alors c'est difficile de résumer toute l'action peut-être de cet homme, mais il faut aussi un tout petit mot du contexte. À l'époque, il y a énormément de pauvres dans le royaume de France, entre autres à Paris, et on dit que l'Église à ce moment-là a commencé à inventer les hôpitaux publics, et Saint-Vincent de Paul a été, on va dire, le père de la charité publique. Il était proche de la famille royale, et donc il a été l'auteur de grandes institutions et de grands lieux de secours, entre autres aumônier général des galères. On va écouter un deuxième extrait, c'est une conversation justement avec Anne d'Autriche, la régente, au soir de la vie de cette dernière. Cette conversation, je ne sais pas si c'est devenu un classique du cinéma, mais en tout cas, c'est une conversation que l'on cite souvent.
Je n'ai rien fait. Répondez-moi. Vous qui n'avez pensé qu'à donner, vous qui avez renoncé au bonheur et à la puissance toujours, vous qui avez bâti autre chose que de vains palais, qu'une vaine gloire, sentez-vous au seuil de la mort ce grand trou vide derrière vous, vous aussi?
Oui, madame, je n'ai rien fait.
Que faut-il faire alors dans une vie, monsieur, pour faire quelque chose?
Davantage. Nous sommes terriblement négligents.
Oh mon Dieu, voudriez-vous qu'enfin je vous retrouve? Voudriez-vous enfin m'appeler au repos?
Voilà, cette conversation, que vous inspire-t-elle à l'un ou l'autre?
Paul Dima l'a souligné, le talent de l'écriture des dialogues, c'est Jean Anouilh qui a écrit ça, c'est remarquablement interprété, et c'est très fort dans ce qu'échangent ces deux personnages, parce que elle lui renvoie une vie vaine qui est la sienne, la reine d'Autriche, et lui répond, elle n'est pas plus pleine que la vôtre, la mienne. J'ai justement été là, c'est tout. Et ce qui est fort aussi dans l'interprétation, là, c'est la différence comment Freinet a interprété Vincent de Paul, c'est que si vous faites bien attention, il a un léger accent, alors que ses interlocuteurs n'en ont pas. Ça veut dire que c'est une autre catégorie sociale. Lui, il est en bas. Il est près des gens et les autres sont au-dessus. C'est ça tout, à la fois, ce qui est remarquable dans le message qui est livré dans ce dialogue et dans l'ensemble du film, et qui passe aussi par l'interprétation de Freinet, qui est vraiment extraordinaire.
C'est pas facile de faire un film sur la charité, hein, Paul Dima. C'est probablement une des choses les plus difficiles en fait à figurer ou à dire, un film sur la charité ou la sainteté.
Oui, mais ici c'est remarquablement réalisé, parce qu'on sent bien que c'est pas du bavardage, c'est pas une conversation comme ça superficielle. Les deux personnages en présence, ou les deux personnes en présence, la reine toute puissante qui constate le vide et de ses palais et de sa vie. Et en même temps, Vincent de Paul, qui ne joue pas au...
Il n'accuse pas. Hein.
Moi, j'ai fait mieux que vous. Il dit, mais moi aussi, ma vie, elle est vide. Mais, et elle lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit tout ce que vous avez fait? Plus, madame.
On va écouter un dernier extrait, c'est presque à la fin du film. Il sent qu'il va mourir, et il fait appeler une jeune novice.
Souviens-toi bien, toujours.
Oui, monsieur.
Tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus lourde que le broc de soupe et le panier plein. Mais tu gardera ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que pour ton amour. Pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes.
Voilà, quelle chute, hein. Je sais pas si c'est tout à fait la chute du film, mais une grande profondeur cette phrase, hein. Mm-hmm. Paul Dima, peut-être un mot pour conclure. Je vois que le temps file, il va falloir qu'on finisse cette émission.
Donc l'épisode ou la création des filles de la charité qui existent toujours et qui sont toujours au service des pauvres, mais justement un service qui n'écrase pas, mais un vrai service, c'est-à-dire que donner n'est pas suffisant si ce ne sont que des choses, même s'ils sont nécessaires à la vie, le soin, la nourriture, etc. Il dit, si tu ne donnes pas de ton amour, ils ne pourront pas accueillir ce que tu leur donnes, parce que c'est un affront à leur faire. Il faut que ton amour... demande leur pardon de ce que tu leur donnes.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle donc le prochain Ciné-Parole, c'est mardi prochain, 14h30, 20h30, et ce n'est pas Monsieur Vincent, mais Edmond de...
Alexis Michalik.
Michalik, bravo lui, Marie. Il suit, même si on est le matin. Mardi 15 janvier, 14h30, 20h30, rendez-vous à l'ABC pour le Cinéma-Parole, et nous, on se donne rendez-vous en février prochain pour notre prochain Le Grand Écran. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.